Bien. Donc, je terminais tout à l'heure en disant que le Dieu de la Bible est un Dieu qui écoute et surtout qui écoute les cris de détresse. La vie des groupes qui peu à peu vont acquérir une identité, les tribus israélites, etc., et une communauté, vont se former autour des traditions diverses et très variées. Mais donc la base essentielle de ces traditions qui vont créer et forger l'identité d'Israël, c'est la base de la croyance en un Dieu libérateur, présent à son peuple, qui donne des directives, des orientations et voire des institutions. L'histoire politique et religieuse d'Israël est complexe et mouvementée. Ce n'est pas une histoire sainte, entre guillemets, qui se déroule harmonieusement, selon un plan bien prévu et qui s'y déploie harmonieusement. La variété d'approches de ces dieux est grande, comme sont diverses aussi les expériences des hommes. Les expériences vécues, même s'il peut y avoir des points communs entre l'esclavage en Égypte et l'exil à Babylone, c'est pas la même chose et c'est pas la même expérience de ceux qui sont restés en Judée après la déportation des élites et l'expérience des élites à Babylone. Bon, donc. La Bible, de ce point de vue, est les contraires, ça, il faut bien, les contraires de la pensée unique. Et en conséquence, c'est son antidote vital de la pensée unique. Et c'est assez, j'allais dire, tordant, mais enfin, même la commission biblique pontificale, qui est quand même de temps en temps fait des textes extrêmement bons. Il y a 5 ou 6 ans, ils sont sortis un texte, Bible et morale. C'est important. Comment est-ce qu'on sait, quand on essaye de faire une réflexion morale, comment on se réfère à la Bible, qu'est-ce qu'on en fait? Bon. Mais là, ils sont tombés. À mon avis, je l'ai dit par ailleurs, donc ce n'est pas un scoop, hein. Ils ont tombé dans cette tentation énorme de l'univocité, comme si tout était résumable, si l'on peut dire, où on peut tout dire en deux. Ils mettent deux trucs qui. L'Exode. L'Exode, ben je vais dire, par exemple, Isaïe ne connaît pas l'Exode. Alors, on ne va pas me dire que Isaïe, le grand prophète Isaïe, c'est une petite crotte. Qu'on peut. Et l'autre fil qui traverserait toute la Bible, etc., c'est le mot alliance. Il n'y a pas un seul sermon, ou une seule retraite, ou un seul machin spirituel ou spiritueux qui qui n'utilise pas le mot alliance. L'alliance, c'est l'alliance. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? Et là c'est un problème très important parce que il y a un mot utilisé dans l'Ancien Testament qui, dans un certain nombre important de cas, doit être traduit par alliance, mais pas dans tous. Dans d'autres, il doit être traduit par promesse. C'est quand même pas la même chose, une promesse qu'une alliance. Une alliance, c'est toujours un rapport de réciprocité dans les droits et les devoirs. L'autre jour, j'ai discuté ça avec un séminariste du diocèse de Paris, il était tout à fait dans... Alors là, je me dis, mais il y a des alliances unilatérales, écoute, ça c'est un oxymore. Une alliance unilatérale, ça n'a pas de sens. Une alliance, c'est deux qui s'engagent, même si ce n'est pas la même chose, si ce n'est pas au même degré. Je m'engage à cultiver de patates dans mon champ, et vous, à fournir en pétrole la Chine entière. C'est quand même pas pareil comme engagement. Mais les deux ont une partie dans ce contrat. Chacun, les rapports que nous avons avec les banques, c'est une alliance, c'est du donnant-donnant. Et il y a dans un nombre important des textes de la Bible, la relation des dieux à l'homme est vue comme une relation d'alliance, mais pas partout. Et on veut croire que tout est alliance, et vive l'alliance, et l'alliance, bon. Bref, la variété, c'est constitutif, ça fait partie de l'ADN de la Bible. C'est donc l'antidote vital. Dans cette harmonie discordante de l'Ancien Testament ou de la Bible, dans laquelle le peuple d'Israël cherche son Dieu et Dieu se laisse trouver, la communication s'établit entre Dieu et les hommes, directement, parfois, ou par l'intermédiaire de certaines personnes, Moïse, les prophètes, et les institutions sont aussi censées forger et favoriser le vivre ensemble et par l'intermédiaire d'elles, par leur intermédiaire, établir une certaine communication entre Dieu et les hommes, par les moyens des institutions. Parce que ce sont des canaux, si l'on peut dire, qui permettent cette communication. Par exemple, l'institution cultuelle, tous les systèmes sacrificiels, etc. Il est pensé et conçu pour favoriser, pour établir même la relation entre Dieu et l'homme. Au milieu de cette diversité de manières de se communiquer, apparaît un fil conducteur très important, et qui prend corps peu à peu, qui est l'espérance. Et l'espérance est le propre des prophètes. L'espérance suppose que la situation n'est pas bonne, ou une situation de manque. L'histoire d'Israël a rarement été idyllique. Donc, il y avait de quoi, effectivement, fomenter l'espérance. Et sont donc les prophètes qui vont être l'expression majeure et la plus caractéristique de cette tension entre ce qu'on a et ce à quoi on rêve, c'est de quoi on rêve. Cette tension vers un avenir de justice et de bonheur. L'une ne va pas sans l'autre, par tous et pour tous. Cet avenir de justice et de bonheur dans lequel la communion avec Dieu et les hommes, Israël, serait enfin réalisée et pleine. Et là encore, diverses figures d'espérance vont surgir, des figures qui alimentent ou qui pointent vers l'espérance ou qui incarnent l'espérance de façon diverse. L'une des figures, l'une des figures de l'espérance la plus connue, c'est le Messie. Avant de voir de façon bien précise la question de la figure d'espérance du Messie, il faut quand même que vous ayez quelques repères essentiels de l'histoire d'Israël. Il est probable, du point de vue historique, que David ait été roi de l'ensemble des tribus israélites. Même si certains historiens très à la mode, qui, eux, ont le sens des pépettes. Voilà, bon, ils en sont. Même si, je vous dis, certains historiens, pour ne pas les nommer, Finkelstein, qui a sévi quand même dans au moins dans deux séries à Arte, bon, ils minimalisent complètement. Ils vous disent que Jérusalem était un hameau de rien du tout jusqu'au 8e siècle, ou là, jusqu'à la fin du 8e siècle, à l'époque de Isaïe et d'Ézéchiel, etc., qu'avant c'était. Ouais. Il y a des données historiques quand même qui sont extrêmement fortes, qui ne figurent même pas en note en bas de page de ces publications. David, on a la première attestation historique irréfutable dans une stèle qui a été découverte dans les années 95, par là, au nord d'Israël, dans le site de Dan. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais Dan est vraiment tout à fait au nord. Et il y a une expression dans la Bible qu'on dit pour dire les frontières d'Israël, de Dan à Beersheba. Pour dire le nord, Dan et Beersheba dans le sud. Bon. Dan, c'est une ville quand même très importante, et c'est une ville qui, même pour la visiter, est très impressionnante et très, très, très parlante. Et dans les fouilles qu'on a fait là, on a trouvé une stèle, en gros de 850, écrite en araméen, enfin, gravé en araméen par un roi de Damas, un roi araméen qui avait pris Dan. Et dit, j'ai pris Dan, etc., etc. Et il fait mention dans ses stèles de la maison de David. C'est un peu comme si vous parlez de la maison de Savoie. Pour que l'expression devienne quelque chose de super connu, à tel point que même les ennemis en parlent de ça, d'autant plus que Dan n'était pas sous la coupe de David, il faut quand même compter un minimum de 50 ans pour que l'expression et la dynastie soient connues et reconnues comme telles. Autrement dit, on nous met dans les années 900. Ça coïncide en gros avec la chronologie proposée par la Bible. Donc, les minimalistes, comme on dit maintenant. Donc, il est probable, effectivement, que l'histoire présentée avec des hauts et des bas dans les livres de Samuel et des rois soit beaucoup plus proche de la réalité qu'on veut bien le dire. Il avait commencé quand même pour être roi uniquement du sud. Non, il avait commencé comme mercenaire de Philistins. David, le saint roi David. Il était très bon comme militaire, mais comme père de famille, c'était un vrai désastre. C'était un coureur de jupons absolument invétéré. Et le texte l'est dit. Enfin, bon, là, le texte, ça, il n'a pas du tout. La Bible ne cache pas les choses. Et nous avons exactement la même chose dans le Nouveau Testament. La figure de Pierre, c'est pas génial, hein. Deux fois traître. Mais traître. On ne va pas édulcorer ni cacher. David, c'est pareil. Enfin, l'image de David, c'est. Le saint roi David. C'est vrai qu'il avait la larme facile. Mais en dehors de ça. Une sale brute. Bon. Il a fini par, après avoir quelques activités, disons, où il a éliminé les adversaires potentiels, vous pouvez lire le testament de David, c'est chapitre 2 du premier livre des rois, où il dit à son fils Salomon, écoute, voilà, tu vois, etc. Et tu t'occuperas bien d'un tel qui m'emmerde royalement, donc tu t'en occuperas. On voit ce que ça veut dire. Et dans le chapitre 4, on voit qu'effectivement, Salomon suit les ordres de son père. Bon, donc. Il a fini par être roi du nord et du sud, parce que la différence entre le nord et le sud, c'est quand même extrêmement importante. Le royaume du nord, qui comportait, si vous voulez, en gros, 10 tribus, mais qui allait jusqu'à 10 kilomètres au nord de Jérusalem, il était beaucoup plus grand que le sud et beaucoup plus riche. Et la capitale la plus connue du Royaume du Nord, c'est Samarie. Si vous voyez maintenant un peu la carte, c'est Naplouse. Naplouse, vous voyez. Bon. Et ces royaumes, donc il a été souvent en bisbille avec Juda, qui était le royaume du Sud, avec Jérusalem comme capitale. Et le royaume du Nord a été pris entièrement par les Assyriens en 722. Là, on a les textes assyriens, les textes de la Bible. Là, on peut faire de l'histoire, on peut faire et on fait de l'histoire. On a des sources différentes qu'on peut contraster. Le royaume de Juda et de Jérusalem résiste encore ...150 ans de plus. Et en 587-86, Jérusalem est prise par les Babyloniens, cette fois, qui ont succédé comme puissance aux Assyriens. Et c'est l'exil de l'élite de Jérusalem à Babylone. Les temples sont incendiés et les institutions tombent à l'eau. Plus temple, plus roi. Et la plupart de la population reste sur place, mais l'élite politique, les scribes, les artisans, eux, sont emportés, si l'on peut dire, en Babylonie pour travailler là pour le roi. En 538, c'est la nouvelle puissance, les Perses, qui prennent place. Et les Perses, Cyrus, laissent le peuple qui avait été exilé par les Babyloniens rentrer chez eux. Donc les Juifs, à partir de là, on parle des Juifs, pas avant. À partir de là, ils peuvent rentrer chez eux. Peu, j'insiste, très peu les font. Vous n'allez pas rentrer dans un pays comme la Judée, où il y a une abondance des pierres. Mais en dehors de ça, c'est plutôt raide. Hein. Et si vous êtes en Babylonie... On a retrouvé, il y a pas mal d'années, les archives d'une banque en Babylonie. Parce que les banques, évidemment, comme vous pouvez imaginer, ce n'est pas nous qui les avons créées. Et dans les archives de cette banque, qui s'appelait la banque Mourachou, il y avait les listes des clients. Avec leur numéro de compte et... Non, mais je ne vante rien. C'est comme toutes les histoires qu'il y a eu dans les banques suisses. Hein, ou dans le Panama Papers ou autre. Et dans la liste des clients de cette banque en Babylonie vers 550, il y a un nombre incroyable des Juifs. Parce que là, les noms, on connaît. Ce qui veut dire que les exilés judéens s'étaient très bien adaptés et qu'on dit maintenant intégrer. Alors, dites à ces gens-là de tout laisser tomber parce qu'ils n'avaient pas des succursales Mourachou à Jérusalem. Et les juifs, je ne sais pas quoi, que Trump va essayer de couper aux Iraniens, n'existait pas encore. Enfin bref, bon. Bon. Les gens ont été très réticents pour rentrer chez eux. Quelques années plus tard, à la faveur d'une crise des successions politiques chez les Perses, il va y avoir un mouvement indépendantiste assez fort, et il y aura pas mal de gens qui rentrent avec Esdras. Pour dire que c'est l'époque de la restauration, je dirais plutôt de la reconstruction. La crise a été entre 522 et 520. Et là, vous avez deux petits prophètes qui fonctionnent à plein et qui sont des apôtres de la reconstruction, Agée et Zacharie. Ces deux prophètes, si vous les lisez, vous verrez, ils sont de fervent, si on peut dire comme ça, propagandiste de la restauration de la royauté en Israël. Ils sont pariés sur un descendant de David et ça n'a pas marché, ben voilà. Comme quoi, on peut être prophète et se tromper à 100% dans pas mal de choses. Cette reconstruction en Judée, c'est sous la houlette du pouvoir perse, qui de ce point de vue était très malin, dans le sens que il mettait comme gouverneur des gens du pays. Bon, par exemple, quelqu'un qui était descendant de David. Bon, ça faisait qu'il était mieux accepté par la population. Mais en même temps, il était là parce que c'est les Perses qui l'avaient mis. Il avait, si on peut dire, une double légitimité. La légitimité du sang et surtout la légitimité du pouvoir central. Et cette reconstruction de la communauté va être faite autour de deux pôles. La loi et le temple. La loi qui va être, c'est que nous avons maintenant le Pentateuque, que ça va cristalliser dans les années 450 et ça va devenir la référence du monde juif, la loi, jusqu'à maintenant. Et le temple, qui l'ont reconstruit, non sans mal, parce qu'ils étaient beaucoup plus préoccupés, comme dit le prophète Agée, à reconstruire leur maison avant le temple. C'est pour ça qu'ils se font engueulé, mais vraiment copieusement par le prophète. Mais enfin, ben, bref, ils ont reconstruit le temple, alors ça devient les temples et la loi, les deux piliers du judaïsme, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. La première référence pour Israël, la première référence écrite est la Torah. Donc, je vous dis 450, en gros. Ensuite, il va y avoir, disons, deux siècles plus tard, un deuxième bloc de la Bible, les prophètes. Qui vont devenir aussi écritures, qui vont devenir références aussi, mais nettement plus tard que la Torah. Et en troisième lieu, ce qu'ils appellent, dans le monde juif, les autres écrits, ou les écrits. Là, vous avez un pot pourri, le livre des psaumes, le livre d'Esther, le livre de, enfin bref, Qohelet, enfin bref, tout le reste, tout ce qui n'est pas ni prophète ni Torah. C'est dans ce troisième sac, tout mélangé.
Quatre mois avant,
d'accord. Il va sans dire que les images des dieux que l'on trouve dans ces ensembles, les trois composantes de la Bible, la Torah, les prophètes et les autres écrits, sont particulièrement variés. Il est inévitable, vu l'origine de ces textes, et c'est donc en même temps heureux que c'est ainsi. D'une part, parce qu'ils sont le fruit de la perception des gens qui sont à l'origine de tous ces textes. Et d'autre part, parce que la Bible, l'Ancien Testament, a mis quand même en gros 1000 ans. 1000 ans à émerger. On peut dire que les cantiques de Déborah, des textes les plus anciens, disons qu'il peut venir de du temps de David, disons. Enfin, pour faire simple, bref. Mais si jusqu'au dernier texte, les livres de la sagesse, même si les livres de la sagesse fonctionnent uniquement dans le monde chrétien, mais enfin, même, c'est 50 avant Jésus-Christ. Voilà. Ça. Prenons un autre exemple. Le livre de Coëlette, le livre de l'Ecclésiaste. Vanité, des vanités, tout est vanité, etc. Rien de nouveau sur le sol. Bon, c'est le texte. L'hébreu de ce livre n'a rien à voir avec l'hébreu du livre du Deutéronome. Même si le livre de Coëlette se présente comme ayant été écrit par Salomon. Alors, Salomon, parlant l'hébreu qui sera parlé 6 siècles plus tard, moi je vais bien croire à l'Esprit Saint, mais enfin quand même, il y a certaines limites. Donc, et qui dit le temps qui a été nécessaire pour faire et pour naître cette Bible, ça change. Obligatoirement, les temps, les changements amènent avec lui des changements. On ne parle pas français aujourd'hui comme du temps de Charlemagne, à supposer qu'il parlait français. On a des conceptions différentes, sans tenir compte de tous les changements, disons, techniques qu'on a eu, mais même humainement, de tout point de vue. Les questions ne sont pas les mêmes. Et les réponses, encore moins. Donc, qui dit temps dit changement. Et donc, obligatoirement, relativité de ce qui est produit dans le temps. Donc, on ne peut pas faire, on dirait, une sorte de fiche signalétique pour en tirer un profil robot du Dieu de l'Ancien Testament. Une sorte de profil Facebook avec photo et tout. Comme je l'ai déjà dit 3 fois, mais je pense que une 4e ne sert pas à être trop. L'image de Dieu est particulièrement plurielle et diverse. Ce qui constitue un vaccin pour ou contre la tentation de réduire Dieu à une image. Et la pluralité d'images de Dieu dans l'Ancien Testament rappelle aussi son irréductibilité à l'une ou l'autre. On traîne encore des images selon lesquelles les dieux de l'Ancien Testament étaient un dieu de la peur, du jugement et du châtiment. Tandis que celui du Nouveau Testament, les dieux de Jésus-Christ, seraient les dieux de l'amour, j'allais dire, et de la crème fraîche. Bon, il est vrai que pour la foi chrétienne, l'amour de Dieu se révèle, se voit, se touche en Jésus-Christ. Là, jusque-là, on est tout à fait d'accord. Mais les figures de Dieu dans l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament présente, ce sont aussi, je dis bien aussi, des images d'un Dieu de tendresse et d'amour, quand vous lisez Osée. Enfin, c'est... Je veux bien, mais on est à l'époque de MeToo, mais a priori, l'image de la relation homme-femme est plutôt une image de tendresse, a priori. Eh bien, Osée, 8e siècle, présente Dieu dans sa relation avec Israël comme Israël et Dieu, comme un couple. Bon, tout n'est pas couleur de rose, ça c'est tout à fait certain. Mais enfin, quand même, la dimension de la tendresse est tout à fait réelle. Quand il vous présente Dieu qui s'occupe de son fils, qui l'apprend à marcher, qui le prend dans ses bras, etc., quand même pas un Dieu pervers. Donc, un Dieu père, même un Dieu mère dans l'Ancien Testament. Donc, et toutes les images des dieux dans l'Ancien Testament doivent être obligatoirement situées, contextualisées, et relativiser. Si vous dites à quelqu'un qui a une image de son père désastreuse, vous dites, mais Dieu est père, mais tu la gardes pour toi. Tu le gardes pour toi. Et ça arrive assez souvent. Quand on dit aux gens, il faut penser que Dieu est père, on dit, si c'est ça, merci beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... pour la mère, généralement, moi. Pour la grand-mère, à la rigueur. Mais pour le père, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une image très négative du père. Donc, si on dit que Dieu est père et qu'il n'y a que ça, c'est une image. Mais Dieu aussi mère. Bon, dernier point. Fonction et institution. Ces approches de Dieu se font dans le cadre d'une société qui vit dans un cadre géographique donné. Ce n'est pas une abstraction théorique passe-partout. Le cadre géographique met Israël obligatoirement en lien avec d'autres peuples. Canaan, la Palestine, n'est pas une île isolée du reste de la planète. Canaan, la Palestine, Israël, si vous voulez, c'est un couloir. Et un couloir est fait pour passer d'un lieu à l'autre. Et si vous voyez dans une carte, ça se voit très très bien. C'est le couloir qui met en rapport la Mésopotamie et l'Égypte. Les deux grands lieux de puissance. Ça peut être les Assyriens, les Babyloniens, les Perses et de l'autre côté, l'Égypte. Et les deux puissances, si vous allez un peu plus vers l'ouest, les Hittites en Turquie. Bon, mais de toute façon, ces grandes puissances du nord ou de l'est sont en compétition avec l'Égypte en permanence. Autrement dit, tout le monde va passer par là pour contrôler l'autre. Pendant des millénaires, Canaan-Palestine a été terre de passage de toutes les armées et de toutes les forces en présence. Et une des dernières, c'était votre cher Bonaparte, Napoléon, qui est allé même jusqu'à Acre, c'est le nord d'Acre, là il a été quand même salement touché. Du coup, il est rentré en France vite fait, bien fait. Bon, bref. Les influences sociales, religieuses et politiques ont été innombrables et déterminantes. Bon, par exemple, vous avez le plan du temple de Jérusalem. Bon, très bien. Mais c'est le plan des temples que vous trouvez en Syrie depuis les 3e millénaire. C'est dans ces va-et-vient d'influence qu'il va se constituer peu à peu l'identité propre à Israël. Une identité qui sera faite d'emprunts culturels, religieux, et à travers ces emprunts, ils vont constituer leur personnalité. Il y a un point quand même qu'on ne les dit pas trop souvent, surtout avec des façons synthétiques et provocantes, mais tout à fait réelles. Il n'y a rien en Israël, du point de vue religieux, du point de vue social, du point de vue politique, qui soit original. Rien. Ni les sacrifices, ni les institutions, ni les réalisations des villes. On retrouve tout ça ailleurs. Même, par exemple, le décalogue, le célèbre décalogue. Dans les décalogues, vous trouvez tout ailleurs. Comment ils font après avec ce qu'ils empruntent, ça c'est une autre histoire. C'est là, l'originalité vient de l'adaptation, de l'acclimatation, de l'appropriation qu'ils ont fait. Par exemple, pour le décalogue, pour ne pas aller trop loin, les contenus des 10 paroles, vous les trouvez ailleurs. Vous allez voir au Louvre la stèle de Hammurabi. Vous aurez du mal à la lire. Mais enfin, bon, il doit avoir là-bas, je pense qu'ils ont mis une traduction de ces stèles. Et vous verrez les 10 commandements. Ce qui change radicalement, c'est l'introduction. Dans laquelle, dans la Bible, Dieu se présente. Je suis le Seigneur ton Dieu qui te fait sortir de l'esclavage du pays de l'Égypte, c'est pourquoi. Toc, 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 toc. Autrement dit, la racine de l'exigence des dieux, ou la racine de l'imposition de la loi des dieux à son peuple, est ce que Dieu a déjà fait pour son peuple au niveau historique. Et Hammurabi, évidemment, c'est pas ça, du tout. Donc l'origine du droit en Israël, c'est il réside dans un Dieu libérateur. Mais libérateur, pas seulement comme ça, des mauvaises tendances personnelles. Non, non. Libérateur, concrètement et historiquement. On peut effectivement, à partir de tous ces éléments, créer une identité. Ce qui a fait Israël. Habituellement, et ça vous l'avez quand même suivi depuis Vatican II, dans tous les baptêmes, etc., on rappelle qu'on est le baptisé est prêtre, prophète et roi. À mon avis, on va trop vite, mais enfin, il faut aller expliquer qu'est-ce que c'est. Mais ces trois fonctions sont trois fonctions essentielles en Israël, dans l'histoire d'Israël. Et ce sont des institutions, comme je vous disais tout à l'heure, qui configurent Israël et à travers lesquelles Dieu aussi agit et parle. Pour ça qu'il faut bien connaître ces trois institutions, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils disent et en quoi ces institutions, primo, sont vecteurs et canaux de la révélation, et comment ces trois institutions, enfin, qu'est-ce qu'elles sont devenues après dans le monde de la foi chrétienne. Je vous laisse donc là et on se retrouve dans une semaine. Oui ?
Juste me dire, j'ai pas bien compris, les 10 commandements, on les avait trouvés.
Les contenus des 10 commandements se retrouvent ailleurs. Donc c'est pas original de la Bible. Bon, d'une part, entre autres, dans les codes de Hammurabi, qui est un code extrêmement célèbre de 1750 avant Jésus-Christ. Et les codes se trouvent au Louvre. C'est une stèle énorme, de 3,50 m au moins. Thank you.